France Inter.
Club.
Go.
Go.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est Côté Club en direct du studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques avec Marion Guilbault. Bonsoir Marion.
Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
22h, 23h, chaque soir on remet le son avec le meilleur de la scène française. Une soirée noir et blanc. Photographie rock et dessin punk avec nos deux invités, Renaud Montfourny et Arnaud Le Goueflec. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Arnaud Le Goueflec qui co-signe avec Nicolas Moog Vivre libre ou mourir, une histoire du punk et rock alternatif en France, 1981-1989. Alors ce sont les Berruriers Noirs, Lucrat Milk, Ludwig von 88, Metal Urbain ou la preuve que le rock'n'roll est la dernière aventure du monde civilisé. Ce n'est pas de moi, mais de Spi, du groupe
OTH.
Parfait. Renaud Montfourny, photographe aux Inrecuptibles, entretien avec Sam Guilleran. C'est le livre qui retrace votre parcours, l'esthétique noir et blanc, format carré de vos photographies solennelles, votre culture musicale, Dijlin à gong, les héros de vos photographies, Neil Young, Patti Smith, Morrissey, les Rita Mitsouko, Pixies, et j'en passe. Marion ?
C'est le soir des nouveautés nouvelles avec un album posthume, c'est celui de Dominique Sonic, de la décroissance pop avec Cyril Cyril, et en exclu le nouveau titre d'Aquaserge, 300 sont à découvrir vers 22h30.
Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
Ouverture live avec Éloi. Éloi, une des héroïnes du concert triple affiche au Bataclan, diffusé vendredi sur France Inter avec Voyou et Bonnie Banane. Le concert est réécoutable pendant 30 jours, extrait ce soir avec Call Me. Non, ce n'est pas Blondie, c'est Éloi qui a électrisé son public.
Qui connaît Call Me ici? Bah vous allez la connaître, on y va, let's go.
Thank you.
Éloi en live, extrait de son concert triple affiche de vendredi dernier au Bataclan. Vous n'êtes pas photographe de concert, hein, Renaud Montfourny.
Non.
C'est pas votre truc, hein.
Non, pas du
vous
tout.
Vous l'évoquez rapidement, vous n'en avez jamais fait?
Très rarement, j'ai très peu de souvenirs. Quand j'étais très jeune, encore étudiant, je suis allé une fois, j'habitais en Belgique, je suis allé une fois, bizarrement, à Maastricht, en Hollande. J'ai fait des photos de scènes de Barbara, mais comme ça, j'avais mon appareil, j'étais dans un petit théâtre. La même chose avec Higelin, dont j'étais un grand fan jusque à peu près à début des années 80. Et puis, de temps en temps, je suis obligé d'en faire pour les soirées des Inrecuptibles.
Ouais, mais c'est pas du tout
pas mon truc.
Ah non, ça c'est. Bah,
par contre, j'ai un très bon souvenir. J'ai une photo que j'aime beaucoup de live. J'étais allé une fois à Newcastle pour rencontrer Morrissey qui jouait à l'université. Et c'était encore des concerts où on pouvait s'approcher. Il y avait pour trois morceaux sans flash, machin, tout ça. Et du coup, il avait sorti un petit tambourin sur lequel il avait écrit Cantona. C'était la grande époque d'Eric Cantona en Angleterre et tout. Donc j'ai cette photo de Morrissey en train de taper, enfin, avec le tambourin marqué Cantona. Et ça, là, j'aime bien.
Ça avait marché. Je vous présente Arnaud Le Goueflec, qui est musicien, romancier, scénariste et qui co-signe une BD « Vivre libre ou mourir », une histoire du rock alternatif et du punk en France de 1981, élection de François Mitterrand à 89, la chute du mur. Vous vous connaissez l'un l'autre ?
Bah moi, je connais les photos de Renaud Montfourny, je ne connaissais pas personnellement.
Bah moi, pareil.
Voilà. Et les photos qui vous ont marqué plus particulièrement ?
Ah bah oui. Bah moi, j'étais, je ne vais pas dire élevé, parce que j'étais jeune adulte, mais je lisais les Inrocks, et puis j'ai en tête des photos d'Iggy Pop, des photos de Lou Reed, des Cramps, etc.
Mmh. Iggy Pop que l'on retrouve ici dans ce livre, à moitié à poil, comme d'habitude, de toute façon.
Ouais.
Avec une séance bien précise, parce que c'était à Birmingham, c'est ça ?
Ouais. C'était dans, je sais plus trop, mais dans le centre de l'Angleterre.
Dans le centre de l'Angleterre, vous êtes allé le voir. On vous avait dit, vous voudrez faire une photo style Paul Narev dans les années 70, le QLR.
Voilà.
Et il a joué le jeu, mais à fond.
Ouais, mais j'étais transi, j'avais la trouille.
Bah oui, on va pas demander
à Guillaume de se faire poil. Et en plus de ça, quand j'avais rendez-vous, il n'y avait pas d'attaché de presse et tout, j'avais rendez-vous au moment du soundcheck avec le manager, le tour manager, comme on dit. Et on commence à faire des photos dans la rue, comme ça. Il n'y avait personne, et d'un seul coup, pouf, il y avait 10 gars qui arrivent, 10 nanas. Donc Iggy Pop me dit, écoutez, on va faire ça après le concert. Donc moi, je commence à blêmir, ça ne va jamais se passer. Puis de fait, je n'ai pas apprécié le concert, parce que j'étais tellement angoissé et tout. Et puis après, j'ai dû attendre, mais genre, une heure et demie, j'ai vu les gars nettoyer la salle et tout. Puis le manager a fini par me chercher, et là, il était hyper adorable, relaxé. Alors, j'ai essayé de lui expliquer donc, la situation. Il me fait, quoi, tu veux que je me foute à poil? Mais il n'y a pas de problème, mec. Et même, il y avait un couteau qui traînait et pof, il se le met dans la
reine.
Moi, j'étais toujours aussi tétanisé qu'avant le concert, parce que du coup, c'était aussi très impressionnant
d'assister à ce genre de performance. En 81, vous aviez 19 ans, Renaud Montfourny.
Ben oui.
Et vous revenez sur cette époque, d'ailleurs, dans le livre, vous dites « Le mouvement punk, quand j'en prends connaissance, en 80-81, et déjà dans le rétroviseur, ce sont déjà les années after punk, la fin de Joy Division, War ou Gang of Four. » La scène française, vous l'écoutiez quand même, ou vous êtes passé à côté ?
Alors, je suis passé à côté, enfin, j'ai écouté Marquis de Sade, je crois, ça doit être à peu près tout. Cass Product aussi, je crois que c'est à la même époque.
Ouais, c'est pas vraiment les punks.
Ben, on est de l'after punk, justement.
Cold Wave, oui, c'est...
L'afterpunk a dû commencer après 77, puisque le punk est né et mort en 77. Donc j'ai raté tout ça. Et après, c'était l'afterpunk. Alors, on appelle ça comme on veut. Mais moi, j'aimais bien aussi ces groupes qui étaient un peu dans une... Je repensais tout à l'heure, là, ça fait longtemps que je n'ai pas cité ce nom-là, j'aimais bien Blurt. C'était un duo saxophone-batterie, en gros. Et c'était quand même des groupes aussi très politisés. C'est le point commun avec les groupes français.
Véritablement, ouais. De la deuxième vague du punk. Hein,
c'est
Les groupes très politisés.
Alors, les Français, je pense qu'il en parlera mieux que moi, parce que je ne connais pas, mais c'était quand même plus l'école The Clash et tous ces groupes politiques anglais.
Arnaud Le Goueflec, il me
semble. Ouais. Bah, nous, on s'intéresse surtout à cette deuxième vague punk française, 81-89. Il y a eu une première vague avant, avec des punks plus dandy, dont fait partie déjà Metal Urbain. Qui brille un petit peu déjà parce que c'est un groupe déjà très politisé au sein de cette première vague. Et puis ensuite, la deuxième vague qui émerge avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir en 81, où là, l'héritage gauchiste des parents éclate et où il y a vraiment une posture, et pas qu'une posture, des convictions politiques.
On va revenir sur ce parcours dans quelques instants. Avant d'entrer dans le parcours de chacun, je voudrais revenir aux fondamentaux. D'avant la photo pour vous, Renaud Montfourny, vous évoquez dans votre livre quelques titres marqueurs. Le premier ?
Les soirs où Mona Lisa klaxonne a le cafard. Elle s'enferme dans la cuisine avec son grand léopard. Tandis qu'elle entre en transe tout en lui mordillant les chines. De la jungle en démence monte cette incantation divine, divine Mona Lisa klaxonne.
Higelin, c'est votre adolescence, Renaud Monfournier.
Ah, complètement. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que je l'ai aimé avec les trois albums rock, et en particulier BBH75, qui pour moi est la pierre fondamentale du rock en français. Et après, j'ai découvert ces disques d'avant, avec Brigitte Fontaine et Areski, qui sont totalement différents, mais aussi d'un autre genre. Et j'ai aimé jusque Champagne compris. Après, j'ai décroché parce que j'étais sur la musique anglo-saxonne.
Vous êtes parti sur autre chose. Ouais. Vous l'avez photographié souvent ?
Jamais.
Jamais ?
Non, enfin, cette fois-là, sur scène. Et en fait, après, j'ai pas beaucoup photographié de groupes français.
Ouais.
J'étais pas du tout... Enfin, c'était... Voilà,
ceux qui avaient les honneurs des Inrecuptibles.
Oui, puis alors après, voilà, j'ai eu. Oui, bon, oui, c'est vrai. Alors l'Hérita, bizarrement, une seule fois, c'était d'ailleurs à l'époque, je travaillais dans une école d'architecture pour gagner ma vie, et il y avait un téléphone fixe. Je rappelle pour les plus jeunes comment ça se passait avant, et on m'appelle et on me dit voilà, est-ce que tu peux être dans une heure et demie? Alors c'était quelque part où est la cité de la musique maintenant à la Villette. Là c'était encore pas construit. Il devait habiter par là je pense. Et je dis bah ouais bien sûr et tout. Et donc j'y vais et j'ai fait des photos et j'ai utilisé aussi pourquoi un film couleur. Et du coup ça a signé mon entrée dans le journal parce que c'était waouh.
C'est quand même étrange d'entrer dans le journal avec une photo couleur alors même que votre style c'est le noir et blanc.
Ouais enfin bon j'avais aussi des noirs et blancs mais j'avais fait une pellicule couleur aussi. En fait il y avait à l'époque une photo couleur, c'était la couve. Mais là, on ne m'avait pas du tout dit que c'était pour la couve. Mais bon, en plus, Fred Chichin avait un manteau rouge, Catherine Ringer un truc bleu ciel. Donc
ah oui,
déjà, la couleur, elle était là. Elle n'était pas inutile, quoi. C'était...
Deuxième extrait. Never can have too much fun. Bow like this with all the big money. Same old says, not tonight, honey. Jean-Michel and Andy was right. All you mothers were too uptight. On a pris un titre de A Certain Ratio, ouais. C'est pas véritablement celui-là que vous aviez écouté. Qu'est-ce que ce groupe a pu représenter pour vous ?
Bah justement, on parlait de
la fin d'Higelin.
Non, bah oui, enfin d'une certaine manière, mais on parlait de post-punk et d'after-punk, et on appelle ça comme on veut, mais alors ça, c'est des groupes, je pense, j'étais un lecteur très épisodique d'Actuel, mais je pense que c'était un groupe qui est passé par Actuel, parce que c'était une espèce de fusion entre le funk et la cold wave, ils sont de Manchester. Et à l'époque que je les écoutais, c'était instrumental. Il y avait une trompette, donc déjà un instrument un peu bizarre dans le rock. Mais une trompette avec des sons très lointains. Je me suis mis aussi à peu près à la même époque à écouter des choses de musique, on va dire, contemporaine. Et donc il y avait John Hassell comme trompettiste qui faisait la musique d'ambiance, ou Philip Glass et compagnie. Donc Certain Ratio, c'est un peu comme je citais Blurt et tous ces groupes-là. C'est quand même, pour moi, c'est un peu la dernière fois où il y a eu des inventions formelles dans la musique, parce qu'il faut rappeler que nous, on ne le connaissait pas encore, mais le rap aussi commençait à cette époque-là. L'électro, la techno, ça existait déjà, mais ça n'avait pas d'ampleur grand public comme aujourd'hui, quoi.
Premier disque acheté, Because the Night. Because the Night, premier disque acheté, Patti Smith, que vous avez photographié par la suite plusieurs fois.
Oui.
D'ailleurs, dans le livre, elle est très présente. Enfin, elle est présente notamment à la fin avec une photo particulière, en extérieur, devant une sorte de manoir. Une photo vraiment fétiche pour qu'elle soit représentée dans le livre.
Alors, en fait, déjà, ce qui est intéressant, c'est que ce disque et tout ça, c'est bien longtemps avant tout ça. C'est quand j'étais encore adolescent.
Avant la photo, ouais.
Non, avant la photo, mais avant tous les groupes dont on vient de parler aussi. Ça veut dire peut-être 2 ou 3 ans avant, mais à l'âge de l'adolescence, c'est des années-lumière. Et surtout, c'était... Pourquoi ce disque ? Parce qu'en fait, c'était un tube et qu'il était dans le Monoprix de Soissons, pour ne rien vous cacher. Il y a longtemps qu'il ne doit plus y avoir de Monoprix à Soissons, d'ailleurs. Et du coup, Ça a été un choc, je sais pas pourquoi, enfin parce que juste la musique m'a parlé et tout ça, quoi. Et alors la photo dont vous parliez, l'espèce de manoir, en fait, c'est la maison où elle habitait avec Fred Smith, son mari, puisque j'ai eu la chance, quand elle est revenue une deuxième fois aux affaires en 96, d'aller la voir chez elle.
Facile à photographier, parce qu'elle avait été photographiée par Mapplethorpe,
oui,
par plein d'autres, donc elle avait l'habitude quand même de ce qui est
oui, l'objectif. Oui, elle était à la fois, on va dire, consciente, self-conscious, comme disent les Anglais, et pour autant pas poseuse et pas du tout... Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, un an avant cette photo, j'étais par hasard à New York, à l'époque où les maisons de disques nous envoyaient faire des...
L'époque dorée.
Ah, l'époque dorée, c'est fini, hein. Voilà. Et justement, j'avais réussi à combiner deux voyages pour deux groupes différents. Et du coup, j'étais resté 6 jours, parce que normalement, on partait le vendredi, on rentrait le dimanche. Et pof, je vois par hasard concert de Patti Smith à Hyde Park, alors dans le Village Voice ou quelque chose comme ça. Et j'essaye de voir. Et puis en fait, c'était un concert gratuit, donc il n'y avait qu'à y aller. Et il y avait très, très peu de gens. C'était l'après-midi. Et elle était à la fin concert en acoustique avec sa sœur et Lenny Kay. Et donc moi, j'étais là, j'ai fait des photos. Et après, j'ai écrit un article dans Les Oracles. Mais ça, c'était... On savait pas qu'elle, enfin, en tout cas, nous-mêmes dans la presse, on savait pas qu'elle allait revenir aux affaires, si je puis dire. Elle avait fait un disque, donc à son époque où elle a élevé ses enfants, où elle s'était retirée, je sais plus, en 88 ou 89, mais sinon, voilà, elle n'était pas revenue comme elle est revenue en 96 pour rester, quoi.
Autre disque hors de votre discographie.
Oh, beau pêcheur. T'es fané, beau pêcheur. T'en épuisais, t'es fané, beau pêcheur. Tu m'as épuisé.
Mais quelle est cette voix? Mais c'est la vôtre, Arnaud Le Goueflec.
Nom de Zeus.
En 2020, l'album L'Orage, le titre Beau pêcheur. Vous avez un parcours de musicien.
Bah oui, ça fait 30 ans que ça dure, mais parfois de manière très underground, parfois moins, ça dépend.
Là, c'est la période moins quand même, c'est la période je m'affiche.
Là, c'est la période un peu moins, oui.
On va partir sur la BD dans quelques instants. Vous avez aussi un parcours de musicien, vous avez eu des groupes comme tout le monde dans l'adolescence.
Je suis très très fort, mais juste en air guitare.
Ah, d'accord. Très bien.
J'ai même été un jury très actif des concours air guitare en France, qui maintenant c'est passé de mode, mais il y a 15-20 ans, il y a eu tous ces trucs avec certains qui sont devenus un petit peu, qui ont fait un spectacle qui s'appelait les Erdenettes.
Ouais, ouais.
Mais moi, je les ai connus quand ils étaient candidats, on se marrait et tout. L'année où j'étais jury, j'étais peut-être même président, je ne sais plus, du jury, mais en tout cas, à la fin, j'avais dit au jury, bon les gars, c'est pas possible, nous aussi, on va se mettre à faire du air guitare. Donc j'ai emmené tout le monde et on a fait du air guitare. C'était, je crois que c'était au festival Villette Sony qu'on s'était vraiment bien amusé. Voilà, ça s'arrête là. Et c'est mieux.
On entre maintenant dans Vivre, libre ou mourir. Le titre est en rouge pour une BD noir et blanc. Sur la couverture, un type de dos avec une crête, le poing levé face à un mur. En haut à gauche, on voit écrit Nada. En bas, soirée berrurière, c'est écrit sur la pochette, et la BD s'ouvre sur un premier son. C'est le premier son que l'on voit dessiné dans cette BD parce qu'il correspond à votre enfance. Arnaud Le Goueflec, né en 74, vous étiez donc enfant dans les années 80, en milieu rural. Et Berrurier Nord arrive comment alors?
C'est pareil pour Nicolas Moog, le dessinateur, comme pour moi. On est au collège ou au lycée pour Nicolas. Et puis on voit passer de main en main une cassette étrange. Et à l'époque, les contenus culturels, c'est soit les parents, soit le collège, soit la bibliothèque municipale, soit la télé. Mais ça, c'est autre chose. Et je pense que rétrospectivement, c'est la première fois qu'on est en contact avec l'underground. Et c'est un underground qui est tout à fait remarquable parce qu'il se répand partout dans tous les collèges et tous les lycées de France et qu'il arrive à une certaine notoriété tout à fait étonnante.
C'est toute l'histoire des Berruriers Noirs. En 2020, on s'était vu pour une autre BD qui s'appelait Underground, justement, sur les rockers maudits et les grandes prêtresses du son. Il y avait d'ailleurs Patti Smith, dont on parlait tout à l'heure. Toujours avec Nicolas Houg, cette fois-ci, en 2024, vous faites un récit choral de la scène punk et rock alternatif à la française. On y croise Masto, des Berruriers Noirs, Antoine Chao, de la Mano Negra, Didier Vampasse, Nina Childress, qui est aujourd'hui une peintre sur la scène internationale. À l'époque, elle était la chanteuse de Lucrate Milk, Éric Débris de Métal Urbain, Virginie Despentes. Mais commencer en 81, c'est véritablement choisir un camp, c'est-à-dire le punk politisé, le yes futur des Berruriers Noirs contre le no futur originel. Pour quelle raison vous avez choisi cette période-là, en fait ?
Parce qu'il y a quelque chose qui naît à ce moment-là, il y a quelque chose qui nous a, nous, vachement marqué quand on était gamins, Nicolas et moi, ce côté, ce lien entre l'éthique et la musique, dont on se rend compte finalement avec le temps que ça nous a structuré aussi en tant qu'auteur, quoi.
Comment ça, l'éthique?
Ben, c'est-à-dire, quand on fait de la musique rock, nous, c'est comme ça qu'on nous a présenté les choses, en tout cas, c'est comme les Berru étaient un peu un modèle de ça, on se doit une certaine éthique en termes de soumission au show business, en termes de... On en discutait tout à l'heure avec Renaud justement du prix des places de concert, qui maintenant atteignent parfois des prix prohibitifs. Les Berru, par exemple, maintenaient une entrée de concert à 50 francs, c'était un principe.
Pour le Zénith, d'ailleurs.
Oui, enfin, pour l'Olympia, les trois... Voilà, c'est,
les trois Olympia en Olympia, 89, ouais.
C'est des choix éthiques forts, et le fait de faire un lien simplement entre éthique et musique, c'est quelque chose qui est lié à cette scène-là, enfin en tout cas de notre point de vue, nous, jeunes Français ruraux des années 80.
Ce qui est intéressant aussi avec les Berruriers Noirs, c'est qu'il y avait l'image, il y avait LOL qui était à la fois danseur, enfin qui faisait le clown, qui faisait vraiment le show sur scène, et qui était aussi le dessinateur et graphiste. Donc ça correspond aussi à l'image que vous pouviez avoir pour la BD.
Ben, ça nous a énormément marqué, tout l'aspect graphique des Berru, c'était essentiel. Et puis ça nous introduisait aussi à une esthétique un peu grand guignol, un peu... Ça nous introduisait aussi quelque part à Louis-Ferdinand Céline ou à San Antonio, à toute une littérature. On s'en rendait pas compte à l'époque. Mais...
Et c'est l'époque des fanzines aussi.
C'est l'époque des fanzines aussi.
En France, il y en a énormément.
Au départ, les Inrock, c'était présenté comme un fanzine.
Parce que ça l'était.
Parce que ça l'était. Autre groupe déterminant qui a plein de liens d'ailleurs avec les Berruriers Noirs, Lucrate Milk. En quoi ce groupe a marqué l'époque, pour vous, Arnaud Le Goueffec ?
C'est un groupe remarquable par son originalité, on va dire.
Un son pas possible.
Un son pas possible, et puis une attitude résolument super punk. C'est-à-dire que, il y en a, LOL avait du mal avec les fréquences graves, donc il se met à jouer de la basse. Masto déteste le jazz, alors il se met au saxo. C'est-à-dire qu'ils ont pris tout, systématiquement le contre-pied de tout, et ils étaient tellement punk que même au sein du mouvement punk, ils étaient un peu incompris.
Dans le système. La chanteuse, c'est Nina Childress. Un mot d'ailleurs sur la place des femmes dans cette histoire du rock alternatif, parce que vous leur faites la place justement, parce qu'en fait, il y en avait plein. Il y avait les Titi, par exemple.
Oui,
vous avez rencontré.
Oui, les Titi, c'est les deux danseuses attitrées de Berruriers Noirs qui sont extrêmement importantes dans leur histoire. Et enfin, quand on a commencé à faire la bande dessinée avec Nicolas, et c'était la même chose pour Underground, on s'est penché sur cette question-là, essayer de donner la parole au maximum aussi aux femmes qui ont fait le mouvement et dont on parle malheureusement pas trop souvent. Et il y en a plein.
L'occasion aussi de rappeler qu'au départ, les punks étaient androgynes, maquillage, ouais. Barésie, jupe, kilt, avant les tenues de combat.
Oui, c'est Laurent Berru qui m'a, quand je l'ai rencontré, qui m'a beaucoup parlé de ça, justement, de ce refus d'une position patriarcale, et puis cette idée qu'il y avait quelque chose de féminin, quelque chose, un refus d'une sorte de posture viriliste, qui était super importante pour eux.
Il y a aussi la dimension politique, on l'avait évoqué, mais très très rapidement, parce qu'il a fallu répondre à cette époque-là aux skinheads qui, eux, se radicalisaient à l'extrême droite. Comment les Berru et les autres ont pu contrer ce mouvement-là en créant, je sais pas, leur service d'ordre, ou jusqu'à avoir des problèmes plus tard même avec le pouvoir et la police?
Il y a eu une... Le mouvement Skinhead n'est pas originairement un mouvement d'extrême droite.
Pas du tout.
Pas du tout. Mais il y a eu une dérive, une politisation à un moment donné qui a obligé en fait les groupes à se positionner, qui les a aussi politisés un peu par ricochet, on va dire aussi. C'est-à-dire qu'il fallait aussi choisir son camp quelque part. Et donc oui, les Berus, par exemple, ont créé leur propre service d'ordre parce que c'était pas possible. Il suffisait d'une dizaine de Skinhead pour détruire une soirée et pour ruiner la...
Pour ruiner un concert.
Ruiner un concert et puis faire énormément de dégâts. Donc ce service d'ordre a clarifié un peu les rangs et remis un peu de... Alors, ce qui est assez paradoxal pour un groupe punk. Mais c'était justement toute leur démarche. C'est-à-dire que c'était se prendre en main et non pas juste véhiculer une idéologie de destroy. C'était se prendre en main et s'autogérer et créer les moyens de sa propre diffusion, de sa propre création.
En parlant de diffusion, la parole justement politique des Berruriers va véritablement se diffuser. Vous parliez tout à l'heure de ce qui s'était passé dans les collèges, dans les lycées. Politiquement, ça va devenir chaud. En 88, les Berrues font le zénith devant 6000 personnes. Ça inquiète le pouvoir et vous évoquez des pressions policières. C'est véritablement cela ou c'est des délires paranoïaques ? Parler d'écoute policière, d'écoute...
Alors c'était une époque un peu ultra tendue pour eux. Il y avait une notoriété qui aussi les exposait. Donc eux-mêmes se posent la question, est-ce que c'est de la paranoïa ou pas ? Mais visiblement, non, il y a eu quand même... Ils étaient quand même dans le collimateur et dans les radars des RG qui voulaient savoir... À partir du moment où un groupe qui véhicule un message comme ça remplit une salle de cette taille-là, ça crée forcément... Ça attire l'attention de la marée chaussée quand même.
D'autant plus qu'il y a eu affaire de Black War. Vous voyez ce que c'était, Black War ? C'était un groupe d'extrême gauche, terroriste, qu'on disait en lien avec les Berruriers Nord. Ils ont même fait sauter d'ailleurs, je crois, c'était l'agence de gens qui venaient, comment on appelle ça ?
Un huissier.
Un huissier, ouais. Voilà. Ils ont fait sauter l'agence d'un huissier et on a mis en lien les Berruriers Nord avec ce mouvement-là.
Alors qu'il n'y avait pas de lien, oui.
Alors qu'il n'y avait pas de lien.
C'était un raccourci.
De la presse.
Oui.
Autre marqueur, Metal Urbain. Eux, ce sont les pionniers.
C'est les pionniers parce qu'ils sont un peu hors période, mais on ne peut pas s'empêcher d'en parler. C'est les premières fois aussi qu'il y a une boîte à rythme comme élément central. En fait, c'est des gens qui, ce que disait Eric Debris, le chanteur, ils écoutaient Tim Blake, ils écoutaient Tangerine Dream, des groupes planants avec des synthés. Et ils se disent, mais ça manque de rythme. Donc ils ont rajouté là-dessus une boîte à rythme et ils ont inventé l'électropunk. C'est les pionniers, les Berrues, finalement, s'inscrivent dans la suite de cette grammaire-là.
Un mot sur la fin. 9, 10 et 11 novembre 1989, les Berruriers font l'Olympia. C'est des trois concerts d'adieu. Le 10 novembre, c'est la chute du mur de Berlin. L'histoire est pliée. On passe à une autre dimension politique.
Symboliquement, c'est un moment d'articulation assez fort. Et juste dans la foulée, la Mano Negra sort Putes Fever chez Virgin et connaît un succès mondial. Donc là, il y a un changement d'époque. Symbolique en tout cas, mais pas que. Ouais.
Ce que j'adore à la fin c'est de l'album, c'est ce qu'ils sont devenus à la fin de la BD, ce qu'ils sont devenus. Donc on voit Nina Childress, aujourd'hui peintre reconnu sur la scène internationale, le batteur de Heavy Skins qui est devenu moine.
Oui, c'est un moine non violent.
Exactement. Yves Le Carpentier, l'activiste de Visa, a été responsable des artistes et labels français chez Piass. Et vous finissez sur deux personnages, Marsu, le manager des Berruriers, et Laurent, des Berruriers et de Traumatisme. Ça vous permet de dire quoi, de finir sur ces deux personnages ?
C'est des personnages, je trouve, remarquables par la constance de leur engagement, de leur vision.
De leur éthique.
Et de leur éthique, exactement. Je pense qu'ils sont au cœur de la bande dessinée. Mais Marsu,
Laurent, d'ailleurs, signe même la préface.
Laurent signe la préface et c'est un peu lui qui clôt aussi l'album. C'est-à-dire qu'il raconte ce qu'il a fait dans les années 90.
Il est devenu hippie.
Oui, c'est ça. Il défend l'idée qu'il n'y a pas de hiatus entre les hippies et les punks, ce qui est très intéressant, je trouve.
Oui, surtout qu'historiquement, c'était le contraire.
Oui. Donc voilà, lui, c'est quelqu'un qui va durcir le ton, qui a une odyssée dans les années 90 qui est tout à fait fascinante. Et puis Marsu, c'est une sorte de conscience politique toujours très, très fin, très subtil, pas du tout donneur de leçons, qui a énormément apporté à la BD.
Arnaud Le Goëfleck, vous restez avec nous. Marion Guilbault va prendre le relais avec les nouveautés nouvelles, puis ce sera Renaud Montfourny pour une séance photo juste après Étienne Dao, que vous avez photographié, Renaud. Je me souviens même d'une photo dans Libération que j'ai gardée de 1988, très jeune.
Voilà, c'est ça.
C'est la seule, non ?
Oui, je crois que je l'ai photographiée qu'une fois parce que j'avais un collègue aux Inrecuptibles, Eric Mullet.
Donc lui.
Lui, il était beaucoup plus sur la scène française.
Sur la scène française. Tout de suite, Le Phare sur France Inter.
C'est comme un tremblement subtil dans l'air pur. Ta lueur d'un lundi d'été, une brûlure. Un délicieux baiser, une morsure. Un pacte secret. Ce sont de merveilleux moments où l'on sait. Ces instants où nos yeux, flèches d'acier, comme de fleurs et blancs, se sont croisés avant d'échanger. C'est comme un phare dans le soir. C'est comme un vœu silencieux. C'est comme un phare. Et les autres n'y voient que du feu. Comme deux invisibles fiançailles que trahissent un geste, un détail, un regard qui couronne et qui médaille, fait battre les sangs. Quelle est la part de chance du divin et la part du hasard de l'instinct qui sur les voiles de nos destins m'impacte en secret. C'est comme un phare dans le noir. C'est comme un désir impérieux. C'est comme un phare et les autres n'y voient que du feu. C'est comme un phare dans le soir, c'est comme un vœu silencieux, c'est comme un phare, et les autres n'y voient que du feu.
Phare à nous, notre lumière, c'est Marion Guilbeault, tout de suite pour les nouveautés nouvelles sur France Inter.
Côté club.
L'album sera prêt quand ?
Faut que je ponde deux ou trois chansons.
J'ai une meilleure idée. Je vous fais une compilée, je vous l'envoie au bureau.
Sur France Inter.
C'était pile la semaine dernière. Je vous parlais ici même de Franck Darcel, ex-Marquis de Sade, disparu tragiquement en Espagne. Une figure mythique du rock rennais. Et ce soir, on va s'attarder encore un peu à Rennes avec Dominique Sonic. Dominique Sonic, feu follet des années 90, addict à la mythologie du rock, aux nuits sans sommeil, à la furie électrique de Motorhead, du Gun Club, des Stooges, qui l'accompagnera même sur scène au Transmusical, un rêve de gosse. Dominique Sonic qui publiera 6 albums solo entre 1989 et 2015, année de sa disparition à l'âge de 55 ans. Un guitariste frénétique, toujours en toile de fond de la scène rock bretonne jusqu'à la fin, en jouant avec les nouvelles têtes rennaises, en se transformant même, si besoin, en backliner, en chauffeur et même en régisseur. Un Dominique Sonic avait laissé quelques chansons au bon soin de Romain Baousson, le batteur qui l'accompagnait sur la fin. Un black album, comme on dit, un disque très personnel, cash, où il évoque son cancer, comme le monde de la musique, un disque miroir, enregistré dans l'urgence avec les amis Olivier Mélano, Laetitia Sheriff, Daniel Pabeuf, comme sur ce titre avec Miossec, qui sonne comme le bilan de ceux qui ont vécu trop fort.
Jusqu'ici, comme vague, comme chose insensée. Qu'avons-nous fait ? Comme pavé dans la mare, comme reflet qui nous rend ainsi. Nous rend ainsi.
Les voix de Dominique Sonic et de Miossec sur Qu'avons-nous fait, qu'avons-nous dit, c'est à retrouver sur cet album posthume Qu'avons-nous fait, un disque sur lequel chaque artiste invité a découvert le titre sur lequel il allait jouer quelques instants seulement avant d'enregistrer, ce qui donne à cet album une couleur vraiment très particulière. D'autres retrouvailles ce soir avec les deux Cyril, Cyril Bondy et Cyril Yeterian, Cyril, le binôme suisse qui fait des vagues sur le Léman. Deux musiciens qui ont la particularité d'avoir été disquaires. Leur magasin à Genève tient aujourd'hui plus du tiers-lieu que de la boutique mercantile. Ils sont aussi aux manettes de deux labels, Bongo Joe et Insub. Cyril, qui depuis ses débuts en 2018 a fait le pari de mixer trans minimaliste, inquiétude écologique, instruments trafiqués, percussions déchaînées et inventaire à la Prévert. Deux prophètes qui prêchent une pop polyglotte, en prise avec le réel, prête à l'insurrection.
La vie vaut-elle plus qu'un mensonge, petit mensonge, faux argument, charabia, groupe de pression, complot, partout, bêtise, standard, blaire, c'est le monde, bingue, c'est le monde, croire, c'est le monde.
Cyril, avec le mensonge, c'est un des titres de Le Futur, ça marche pas. C'est leur nouvel album attendu pour le 26 avril chez Born Bad. Et enfin, on prend aussi des nouvelles d'Aquaserge, un combo de formes changeantes qui a pu rassembler jusqu'à 8 musiciens. Le trio fondateur, c'était Julien Gasque, Julien Barbagallo et Benjamin Gilbert. Un triumvirat qui s'est dissous dans une communauté de composition de décision avec même une ferme studio. La musique d'Aquaserge ne ressemble à rien. Elle est polymorphe, elle est audacieuse et elle donne vraiment l'impression de pénétrer dans une galaxie gazeuse où il y a de la place pour le free jazz, pour la pop psychédélique, pour la pataphysique, pour Brigitte Fontaine et Kim Gordon, pour le rock et la poésie. Ils ont d'ailleurs participé à un album hommage à Léo Ferré, enregistré un disque hommage aussi à Edgar Ferrez et Morton Feldman, une démarche aventureuse qui tranche dans ce monde hyper connecté mais amnésique. Alors, à la question « À quoi Serge ?», la réponse est « À sauter dans l'inconnu avec la puissance du tigre ».
Exclus ce soir dans Côté Club, le saut du tigre, et c'est signé Aquaserge, un titre disponible sur les internets le 27 mars. Leur nouvel album, ce sera le 7e. Il s'intitulera La fin de l'économie, un poème écologique, et il paraîtra le 24 mai chez Pias. Les sons des nouveautés nouvelles ce soir, c'était ceux de Dominique Sonic, de Cyril et d'Aquaserge. Alors, lequel a retenu votre attention, Arnaud Le Gouefflet?
Moi, je suis un inconditionnel du premier album de Dominique Sonic, ouais. Cold Tears.
Oh, oui.
Mais j'aime aussi beaucoup Julien Gasque et Aquaserge. Et je découvre Cyril. Merci.
De votre côté, Renaud Monfourny.
C'est un peu la même chose. Le premier album de Dominique Sonic, c'est une pierre d'angle. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il en avait fait quatre autres après.
Mais si.
Qui étaient aussi électriques ou qui étaient plus.
Il y avait des choses acoustiques, il y avait des choses électriques.
Et justement, je pense que cet album-là, en France à l'époque, c'est un ovni, quoi, ce disque. Et c'est marrant parce que je l'ai réécouté il n'y a pas très très longtemps, il y a peut-être six mois ou un an comme ça, et ça n'a pas pris une ride, quoi, la musique.
Vous l'avez pris en photo ?
Oui. À l'époque, d'ailleurs, j'étais en train de passer d'un format de photo 6-7 à 6-6. Donc, elle n'est pas carrée, elle est un petit peu verticale, la photo.
Traître.
Côté.
Laurent Goumard sur France Inter.
Down by the River de Neil Young pour ouvrir votre plateau. Renaud Monfourny, photographe aux Un Rock, photographe rock et pas de rock. Cette chanson de Neil Young, j'ai lu quelque part, peut-être dans Libération, que c'était une de vos chansons fétiches.
Oui, j'ai quelques marqueurs comme ça. J'aime bien dire que à un moment, quand j'ai fait un peu le tour de la question, j'ai mes trois côtés, ce serait le rock urbain et lettré avec Lou Reed et Velvet, le rock de paysan avec Neil Young et en particulier cette chanson que je trouve absolument incroyable, et le rock de la frustration de banlieue avec les Stooges, quoi. Et après, tout va après, forcément, en vieillissant, on remonte jusqu'aux racines de la musique et on voit d'où ça vient et tout ça. Mais disons que ça, c'est un peu mes trois marqueurs de... Mon triangle dans lequel on peut tout mettre.
Neil Young est aussi présent dans ce livre d'entretien avec Sam Guiran. Vous évoquez trois séances avec lui. Laquelle vous a marqué, lui, que vous pensez phobique des photographies, a priori ?
Alors, je dirais que les trois m'ont marqué parce que, pour le coup, dans les années 80-90, j'étais avec des groupes... je me rappelle, Ride, c'est le premier groupe où c'était plus jeune que moi. Avant, j'avais été avec des groupes un peu plus vieux que moi, mais en tout cas, pas non plus une génération d'écart, quoi. Neil Young, il y en avait au moins une. En tout cas, dans la tête, il y en avait même deux. Je me rends compte maintenant qu'il n'y en avait pas tant que ça, parce qu'il a commencé très jeune. Mais donc, j'étais quand même très impressionné. Et surtout que, à chaque fois, j'ai bénéficié de concours de circonstances absolument incroyables. La première fois... Les Un Rock avaient décroché une interview qui a été faite par Nick Kent, le journaliste anglais qui habite à Paris. Et il n'y avait pas de photo de prévu. Et Nick Kent m'appelle, alors pareil, hein, sur un téléphone fixe. J'étais là quand il a appelé. Il me dit, écoute, on a un problème. On était un samedi. Je fais l'interview là et le manager vient de me dire qu'il faut qu'il aille à l'ambassade du Canada refaire le passeport. Et Nick Kev est phobique des cabines. Donc, est-ce que tu crois que tu peux faire une photo et l'amener demain, dimanche oui, bien sûr, j'avais un labo, j'avais tout ce qu'il faut et tout. Donc je vais le voir dans le palace où il était. J'ai attendu aussi des plombes. Et puis le manager me dit, tiens, tu peux monter dans la chambre. Je fais, oui, non, mais une photo d'identité, il faut un fond blanc et tout. Donc il faut aller dehors, trouver un mur et tout. Il me dit, écoute, attends un peu. Et finalement, un quart d'heure après, il descend avec sa femme et deux, trois autres personnes. Et je dis, on va aller là, dehors. Il me dit, ouais, on allait se promener. Et du coup... C'est quand même assez surréaliste. J'ai fait des photos.
Des photos matons.
Des photos matons sur un mur blanc. Et je les ai accompagnés jusqu'au parc Monceau. J'ai fait aussi quelques photos dans les arbres. Donc, déjà, pour moi, c'était plus un univers qui correspondait à la musique de Neil Young. Et donc, j'ai jamais vu le passeport en question. Mais, et par contre, il y avait une photo. Je pense qu'en fait, quand j'ai dit, pour la photo de passeport, c'est OK, il m'a fait un signe avec son pouce comme quoi c'est bon. Et là, j'ai refait une photo et c'est devenu la coupe des Aroc parce qu'il avait le pouce comme
parce
ça.
Parce qu'il avait le pouce levé. Bien oui. Renaud Monfourny, vous êtes un historique des Un Rock, journaliste et photographe. Vous avez signé des articles, des portraits emblématiques de l'ADN visuel du magazine. Marguerite Duras, Michel Houellebecq avec la photo devenue iconique. Hein, il a la clope au bec. Et puis de l'autre côté, il a sur le poignet un sac Monoprix. Et puis bien sûr, la scène rock avec chaque fois une esthétique noir et blanc, format carré le plus souvent. En quoi ce format carré d'ailleurs était-il, selon vos mots, idéal ?
Alors, en fait, j'utilisais aussi, surtout au début, avec les groupes, le format traditionnel 24-36, juste parce que c'est plus rapide pour travailler. Et bon, les groupes sont quand même, en général, pas très sages. Surtout quand j'étais moins expérimenté, j'arrivais pas à avoir l'autorité bienveillante
pour les
l'autorité pour vous dire, voilà, c'est pas comme
c'est
ça que ça se passe.
Jamais.
Il faut pas arrêter de bouger, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et puis le format carré, pour le portrait, donc plus pour une seule personne, mais ça marche aussi pour plusieurs. Pour moi, c'est vraiment ça serait l'équivalent du nombre d'or, même si, évidemment, ce n'est pas du tout le nombre d'or, mais disons que je retrouve toute la chose. En plus de ça, dans l'appareil que j'utilise, qui est un très vieil appareil, qui était déjà très vieux quand j'ai commencé, c'est des appareils dans lesquels on vise par en haut, et donc on n'est pas en contact direct avec la personne, et donc du coup ça impose un autre rapport avec les gens. Il y a aussi les chambres techniques que moi j'ai toujours rêvé d'utiliser, mais que finalement ça ne s'est jamais fait, où on est carrément à côté de l'appareil photo, et du coup c'est pas du tout le rapport. J'ai mon appareil sur le truc et je mitraille. J'aime pas du tout ce vocabulaire militaire qui est associé, mitrailler, shooter, tout ça, c'est horrible. Bon, je veux pas en entendre parler. Et du coup, ce rapport
de baisser comme yeux,
voilà, ouais. D'avoir un intermédiaire entre la personne et soi, ça crée un autre rapport, quoi.
Les scènes sont le plus souvent frontales, pas de mise en scène, pas d'accessoires, personne ne saute en l'air. C'est assez rapide, généralement. D'ailleurs, ils sont étonnés.
Ouais.
Ils vous disent, c'est déjà fini alors que ça a à peine commencé. Vous leur parlez pendant les séances ?
Je leur parle beaucoup, un peu d'eux et un peu de moi. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller chez les psys et tout ça. Toute ma vie avec des groupes anglais. Encore aujourd'hui, j'étais avec un duo anglais qui s'appelle King Anna. Et au bout d'un moment, je les avais emmenés dans 3 ou 4 murs différents, 3 ou 4 lieux. Puis ils me disent, c'est fini. Je fais, bah oui, il n'y a pas besoin de plus. Allez, j'ai fait combien ? Je fais 90 photos, vous vous rendez compte ? Après, alors là, c'est du numérique maintenant, mais il faut que je les regarde sur l'ordinateur, une par une et tout.
Enfin, quel boulot !
Donc du coup, on a comme ça un rapport détendu, ce qui n'empêche pas que je peux leur dire, retire ta chemise parce que les couleurs, ça ne va pas, mets-toi comme si. Enfin, disons que c'est pas une... Ce que j'aime pas, c'est je ne fais pas de mise en scène plaquée avec une idée avant, en disant, ah tiens, ça va être rock, ou ça va être techno, ou je ne sais pas quoi. Moi, je photographie des gens, et d'ailleurs, je ne fais pas que de la musique, ça représente
des écrivains.
Voilà, donc du coup, c'est des personnalités très différentes, des âges très différents, des looks très différents. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de saisir un peu l'essence des personnes.
Alors comment vous avez résisté ? Parce que le portrait a évolué, l'esthétique des portraits a évolué. Dans les années 90, est arrivé ce qu'on appelle le portrait à idée, le portrait à mise en scène, la photo surprenante. Comment vous avez pu résister à cela ?
J'ai résisté parce que je ne sais pas faire autre chose et je ne veux pas faire autre chose. Je veux pas me... De même que pour la technique, j'ai pas été plus loin que ce dont j'avais besoin pour m'exprimer, si je peux dire ainsi. Du coup, non, la résistance, c'est compliqué, mais j'essaye de rester fidèle à moi-même.
Pourtant, il y a eu des photos télécommandées avec des idées, des recommandations. Ce fut le cas pour lui à l'occasion de la sortie de son album Fantasy Militaire en 98.
La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho.
Et votre rédac-chef avait dans les bottes des tas de recommandations.
Alors là encore, c'était gentil parce que l'idée, c'était de refaire la même chose que la pochette où il apparaissait dans des lentilles d'eau. Donc il fallait trouver un décor végétal et vert. Sauf qu'on était en janvier, je crois, ou un truc comme ça. Et du coup, on avait trouvé que la serre tropicale au jardin des plantes où on n'a pas eu l'autorisation d'entrer. Du coup, on l'a fait ça en catimini. Il y avait Alain Bachoum, son attaché de presse et moi. Elle était un peu derrière pour voir s'il n'y avait personne. Et on était tout au fond, en plus dans des conditions lumineuses très faibles, avec des films poussés. Enfin, ça a donné une belle ambiance, une belle image.
Dans le livre, vous revenez donc sur votre parcours de photographe, de votre travail aux Inrocks, qui a bien changé depuis les débuts. Vos désillusions sur ce qui est devenu le magazine, notamment... Au niveau de la musique, vous dites, je vous cite, « Le magazine est allé trop loin dans sa politique d'élargissement. S'ouvrir sur les musiques du monde, c'est une chose, plutôt bénéfique même. Mais quand on accueille à bras ouverts les musiques occidentales commerciales, comme le mouvement French Touch ou la scène Big Beat
en Angleterre, on sent qu'il y a un déplacement et que cela va être dur de revenir à la position initiale. Et quand on traite sans trier cette scène électro-minimaliste sans âme, sortie d'un chapeau dont la musique est composée au kilomètre, on s'éloigne dangereusement des sujets qui ont fait les grands jours des Inrock. Après 2010, c'est pire. Il faut toujours s'adapter, c'est le maître mot. Un terme horrible qui signifie en filigrane « se plier à se conformer ». Jusqu'à quel point ? Jusqu'au renouveau de la chanson française. Alors là, le magazine franchit un point de non-retour. Plaire donc toujours davantage, aller chercher le public, élargir la palette. On m'appelait monsieur, c'était mieux avant.
Ben oui, parce qu'en fait, c'est intrinsèquement, c'est lié au début du crise de la presse.
Exactement.
Puisque même si on a toujours eu une image très forte, et en fait, on a toujours été un peu dans le rouge économiquement. C'est une aventure qui est partie de rien. Il y a eu plein de mésaventures justement financières et tout. Et donc leur grande angoisse, c'était toujours de il fallait être garder des lecteurs et tout. Donc, en ouvrant le spectre musical, ils pensaient qu'on allait gagner des gens. Mais en fait, on faisait juste perdre l'identité des gens qui nous aimaient au début et qui ne reviendraient pas. Et puis, alors après, sans compter que, je ne sais pas, si on parle de rap français, ce n'est pas du tout une culture qui passe par l'écrit, ça passe par l'image. Et aujourd'hui, d'ailleurs, toutes les musiques, ça passe par l'image et de moins en moins par l'écriture. Donc c'est devenu compliqué, quoi.
Et au niveau de l'image, c'est aussi compliqué parce qu'au départ, il y a eu la période dorée. On vous envoie au bout du monde pour photographier des stars, pour photographier que ce soit des écrivains, que ce soit des musiciens. Et aujourd'hui, vous devez passer, en tout cas pour le monde de la musique, par les attachés de presse qui valident ou pas les photos, qui demandent de les retoucher. Est-ce qu'on retouche vos photos, Renaud Fournier, ou vous vous y opposez?
Moi, j'ai une assez grande liberté. Je ne fais plus de méga stars dont on pourrait parler. Et les rares fois où on demande à valider les photos, je dis toujours... Souvent, c'est d'ailleurs pas l'attaché de presse de la structure. C'est surtout dans le cinéma. Et c'est des gens qui ont des attachés de presse personnels qui s'occupent de gérer leur image et tout ça. Et donc, du coup, j'ai dit, écoutez, je veux bien vous les montrer. Vous me dites lesquels vous préférez. Mais bon, voilà, quoi. Et j'essaye de pas avoir affaire à ça. Et une ou deux fois, d'ailleurs, c'était pour mon blog, donc il n'y a pas d'enjeu derrière. Si ça se fait pas, ça se fait pas. C'est juste, voilà, donc je préfère pas la faire plutôt que... J'ai un peu passé l'âge aussi, qu'on me dise qu'est-ce qu'il faut faire et tout, c'est bon, quoi, ça va.
On vous a proposé des clips?
Alors, à la grande époque des clips et tout, c'était tous les photographes, on leur demandait de faire des clips. J'ai vaguement eu une proposition que j'ai refusée parce que, juste pour moi, c'était pas le même métier, c'était pas la même chose, et je dirais même que c'est assez antinomique pour moi, l'image animée et la photo. La plupart des clips, je regarde pas assez aujourd'hui pour le dire, mais c'est toujours assez pauvre, c'est juste un enchaînement visuel, et surtout, il y a un truc qui, moi, est rédhibitoire pour tout, c'est le nombre de plans à la seconde, si je puis dire, ça va trop vite et tout. J'ai envie d'un court métrage en un plan fixe, c'est ça, ça correspond. Il y a toujours plein d'idées. Des fois, on voit un truc, c'est super, puis au bout de 30 secondes, paf, ça change complètement, puis ça revient et tout. Non, c'est vraiment l'esthétique que j'aime pas.
On va se quitter avec les miens, signé PLK, extrait de la deuxième partie de la mixtape Chambre 140. Voilà, je crois que là, vous savez tout sur France Inter.
Ouais, quand j'étais petit, je voulais faire des poèmes. Au lieu de ça, j'ai fait que des problèmes. Au lieu de ça, j'ai revendu le pollen, la haine, rappé comme Wu-Tang Clan, remplir nos poches comme à Abu Dhabi. Blessure sur blessure comme à Abu Dhabi. Que du le sac comme Ichou et Jackie, Zizou et Zazie, Grisou et Rami. J'suis dans la boîte, mais j'vais passer dedans. Pas d'avantage, j'suis pas assez blanc. Le bédo calme, il fait passer le temps. J't'explique après si t'es assez grand. Mauvaise nouvelle, on est plus blasé. C'est électrique, on fait que taser. On s'attache plus, on fait que de passer. On se met ensemble, on fait que de casser. J'préfère rester dans mon coin. Non, j'suis pas loin, mais j'peux rien faire ici. Enquête sur enquête, à 25 ans, y'a des frères, qu'on gère la calvitie. On indépendant, on encule les gros. Peur des personnes, y'a aucune négo. Moi, on a de chance, plus c'est beau. Chez nous, Dory, fume Nemo. Après, il fallait remettre les gants. J'ai tout changé, fallait refaire les plans. Adieu les rookies, on rentre chez les grands. On travaille plus fort et on serre les dents. On a mangé des murs, fait comme si tout allait. On est venus, ils nous ont dit du balai. On faisait que perdre pendant que toi tu gagnais. On a bossé pendant que toi tu parlais.
Haine contre le monde entier, je reste avec les miens. Seul avec les miens, je l'ai fait de mes mains. Je suis en travaux, en chantier. J'évolue, je le sais bien. Comme moi je vais, j'en sais rien. Mais le bonheur me dit viens. La haine contre le monde entier, je reste avec les miens. Seul avec les miens, je l'ai fait de mes mains. Je suis en travaux, en chantier. J'évolue, je le sais bien.
c'est bien. Comment je vais, j'en sais rien. Mais le bonheur me dit viens.
Ouais. Branché au monde comme le taxiphone. Y'a pas d'essence, poteau, ça te siphonne. J'suis en pleine forme, j'fais une sale season. En 2-3 heures, j'fais 5-6 hommes. J'veux coffrer un max au cas où tout s'arrête. Ils faisaient les sourds, on criait tout ça l'aide. J'ai le seul moment, mais dis-moi où ça mène. Un gilet pare-balles au cas où sous ma laine. On vient du fond de la plongée sous-marine. Mon espoir est grand, mais en vrai tout l'abîme. On reste déterminé, tout pour la team. Tout pour la MIFA, ouais, tout pour la win. Pas pour les buts, tout le showbiz qu'on a ses pairs. Bourré sur le rond-point, j'mets la caisse à l'équerre. Un round ou deux, tu vas finir à l'équerre. Depuis petit, j'suis plus fou et le plus déter. Tu fais des coups de pute, ok, c'est noté. Fin du showcase, j'ai fini menotté. Plus j'y arrive, plus la star de l'OP. Ils m'ont jeté, ils ont pas développé.
Je mène contre le monde entier, je reste avec les miens. Seul avec les miens, je l'ai fait de mes mains. Je suis en travaux, en chantier, j'évolue, je le sais bien. Comment je vais, j'en sais rien. Mais le bonheur me dit viens. La haine contre le monde entier, je reste avec les miens. Seul avec les miens, je l'ai fait de mes mains. Je suis en travaux, en chantier, j'évolue, je le sais bien. Comment je vais, j'en sais rien. Mais le bonheur me dit viens.
Et bien voilà, côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Arnaud Legault et Fleck, merci à vous. La BD, c'est Vivre, Libre ou Mourir aux éditions Glénat. Renaud Monfourny, merci à vous, Monfourny. Je rappelle, Renaud Monfourny, photographe aux Inrecuptibles, entretien avec Sam Guilherand, apparu chez Mediapop. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain, deux groupes de pop électro, Bagarre et Parsec. Et pour vous, Marion,
je déroulerai le fil de l'actualité musicale.
Côté club, on ferme. Bonne fin de soirée. Alors, à demain.